Bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis avec Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous regardons ensemble ce texte d'évangile utilisé dans les églises en cette fin de semaine. Pour des raisons de compréhension et de simplicité, je vous propose, Francine, que l'on partage en deux un texte qui est déjà, d'ailleurs, partagé en deux, soit dit en passant. La liturgie nous propose de lire l'introduction de Luc pour ensuite aller au chapitre 4. Alors, allons-y tout de suite avec l'introduction, moi je dirais l'introduction de l'œuvre de Luc. Puisque beaucoup ont entrepris d'écrire un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout depuis les origines, d'en écrire un récit ordonné pour toi, cher Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Francine, ce serait peut-être bien de nous faire quelques remarques sur cette introduction. Oui. Je trouve qu'elle est remarquablement bien faite.
En effet, et elle est en tout point conforme aux règles littéraires de la littérature grecque de l'époque. Hein. Et donc, Luc se présente bien ici comme un écrivain compétent, un écrivain qui connaît les procédures de son temps et qui les remplit bien. Je dis Luc, c'est intéressant de voir d'abord, il se nomme pas, hein, c'est la tradition qui considère que l'auteur de cet évangile est un Luc, collaborateur de Saint Paul, mais c'est le seul évangile où l'auteur se rend directement présent à ses lecteurs. Et ça, on doit le souligner, d'autant plus que nous, quand on lit les évangiles, on saute par-dessus les auteurs pour se déplacer directement dans le monde de Jésus, puis aller regarder comme si l'Évangile était une sorte de film des événements. Ici, on se fait rappeler qu'entre Jésus et nous, il y a un auteur qui écrit un texte, et Luc se rend présent, donc, et il se positionne comme un catéchète. Hein. Peut-être vous aurez remarqué qu'il s'adresse à un certain Théophile dans le but de consolider l'enseignement que ce Théophile a reçu. Donc, ce Théophile est déjà catéchisé, il est déjà chrétien, ce qui nous rappelle en passant qu'un évangile, c'est pas fait pour informer des gens qui ne connaissent rien. C'est pas un ouvrage d'information, mais un ouvrage de catéchèse et de théologie pour amener le chrétien plus loin, plus en profondeur, disons-le comme cela. On voit aussi dans ces quelques petits versets que Luc n'est pas un témoin oculaire. Il n'est pas non plus le premier à écrire. Ça étonne moins les gens. Mais qu'il ne soit pas un témoin oculaire, ça surprend toujours les gens quand on s'y arrête, parce que tout le monde pense que les quatre évangélistes, c'est des disciples qui ont été avec Jésus, qui ont marché derrière lui, quoi, sur les routes de Galilée. Ça n'est pas le cas. Luc est un grec, d'ailleurs. Et il n'y avait pas de grec parmi les disciples de Jésus. Donc, Luc se situe bien modestement parmi les nombreux qui ont écrit. Il s'est informé, mais il s'est informé à des gens qui n'ont pas seulement comme critère d'avoir été des témoins oculaires, mais d'être devenus des serviteurs de la parole. Disons-le autrement, il ne va pas s'informer seulement à des gens qui ont vu ce qui s'est passé, mais qui ont été capables de voir autrement ce qu'il y avait dans ce qui s'est passé. Et c'est ça, être devenu serviteur de la parole. C'est ceux qui, à la lumière de la mort et résurrection de Jésus, comprennent ce qui s'est passé autrement. Donc, il suffit pas d'avoir été là ce jour-là pour être un bon informateur, d'après Luc. Il faut aussi comprendre autrement ce qui s'est passé. Et bon, on pourrait dire peut-être une dernière remarque. Si Luc se situe comme un héritier d'une tradition transmise, hein, ce que je disais de façon assez, il se situe modestement parmi ceux qui reçoivent une transmission, ça ne le condamne pas à la répétition. Et c'est intéressant pour nous, on est aussi dans la chaîne de transmission. Nous, là, on reçoit et on retransmet. Et Luc ne considère pas qu'à avoir reçu et retransmettre, ça équivaut à répéter. Il prétend faire une œuvre originale à partir de ce qu'il a reçu. Ainsi, il a résolu, lui aussi, je paraphrase, de composer un récit. C'est parce qu'il prétend que ce qu'il va faire est à la fois semblable et différent. Il y a une originalité là qu'il assume et qu'il annonce très clairement. Alors voilà pour cette brève introduction à laquelle personne ne s'arrête jamais, ce que je trouve dommage. Par contre, je trouve ça intéressant que le lectionnaire l'ait prévu dans la liturgie dominicale.
Et cette liturgie dominicale nous fait sauter immédiatement après au chapitre 4, verset 16, nous allons lire jusqu'à 22. Hein? 16, verset 14 à 22. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et, déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Francine Robert, dans ce que nous venons d'entendre, est-ce que c'est possible qu'on a là déjà le programme de, on pourrait dire le programme du héros. Hein?
Oui, on pourrait dire le programme du héros, c'est vrai. On est tenté, en tout cas, de voir ce texte-là de cette manière parce que, chez Luc, ce que vous venez de nous lire, c'est le début du premier récit, du premier acte de la mission de Jésus. Et normalement, un bon auteur, et Luc vient de nous montrer au début de son livre qu'il est un bon auteur, qu'il travaille bien. Normalement, un bon auteur soigne particulièrement l'entrée en scène de son personnage principal. Ça serait vrai pour un roman banal, encore bien plus pour un évangile. Si on regarde le début de chacun des évangiles, on avait les noces de Cana l'année dernière, c'est le premier acte de Jésus dans Jean, ça n'est pas rien.
Dimanche dernier.
Tout à fait. On a la proclamation de Jésus en Galilée, le règne de Dieu s'est approché dans Marc. Vous voyez, donc, on soigne l'entrée du héros, on a le sermon sur la montagne dans Matthieu.
En somme, c'est ça, c'est le début de du ministère, en fait, de la
c'est
vie
ça.
Publique de Jésus.
Et ce que je viens de faire comme un survol trop rapide nous indique bien que chaque évangéliste choisit la première scène dans laquelle il présente ce personnage central du livre et de la foi chrétienne. Alors, ça nous invite, nous, à porter une attention bien particulière à ce texte de Luc, de la proclamation de Jésus à Nazareth, ce texte qui l'a déplacé, disons-le, dans ses traditions, il nous disait, beaucoup d'autres ont écrit avant moi, dans ce qu'il reçoit des traditions écrites avant lui, c'est ce que l'on trouve au chapitre 6 de Marc, par exemple, on voit que la visite de Jésus à Nazareth s'est arrivée beaucoup plus tard dans la vie. Je ne dis pas qu'il est allé une seule fois, Je parle pas donc des événements dans la vie, mais des récits dans le récit de Marc, dans Matthieu aussi. La visite à Nazareth, c'est un fait divers.
C'est ça, car Luc utilise à la base
l'évangile
le récit de Marc.
Oui, merci.
Et d'autres sources.
C'est ça.
Alors lui, il puise dans ses sources et il construit ainsi, lui, il juge bon que c'est ainsi que je fais entrer mon héros.
Voilà, il va chercher cette espèce de fait divers qui tient en 5-6 lignes dans Marc et Matthieu, qui est la visite de Jésus à Nazareth, où on nous dit que Jésus enseigne dans la synagogue le jour du sabbat, mais on ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus enseigne, et on sait que ça finit mal, mais pas si mal que dans Luc. On verra la semaine prochaine comment ça finit, parce que le texte que nous lisons aujourd'hui a été coupé en deux. Hein. Luc 4, c'est 16 à 30 qu'il faudrait prendre et non pas 16 à 22.
C'est intéressant ce que vous dites là.
Ben oui, je sais pas pourquoi le lectionnaire a décidé que c'était trop long de lire jusqu'au verset 30.
C'est ça,
là, mais...
parce que ça forme une unité des versets 14 à 30.
Oui, hein? Disons 16 à 30.
OK.
C'est un seul récit. Dans un même lieu, comme on apprenait... À l'époque, en littérature, unité de lieu, de temps et de personnage, d'action, c'est ça. Alors, Luc 4, 16, 30, j'invite d'ailleurs nos auditeurs et nos auditrices à le lire au complet. Les versets, donc, 14 à 30. Mais, donc, cette scène-là, Luc l'a construit de toutes pièces. Il va chercher le récit à Nazareth dans lequel il n'y a pas grand-chose au niveau de sa tradition écrite, celle qu'il reçoit. Et il le ramène au début. C'est le premier récit vraiment. Hein. Avant, on a eu les tentations au désert, c'est tout. Et l'espèce de petit prologue, là, deux phrases qui nous dit que Jésus revient en Galilée. Et donc, ici, on a l'entrée en scène. Alors, vous savez, vous qui êtes, Claude, un amateur d'opéra, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans une ouverture d'opéra. Et on pourrait dire que c'est la même chose pour l'ouverture de l'Évangile ici.
C'est ça. Dans une ouverture d'opéra, on retrouve l'ensemble de l'opéra condensé dans l'ouverture.
Oui.
Les thèmes essentiels sont traités normalement dans l'ouverture.
Effectivement, et donc et on reconnaît en principe, on va reconnaître les phrases musicales même. Ah oui, ça c'est tel air, ça c'est tel air. Alors c'est la même chose ici. Entrer par cette porte-là dans l'Évangile de Luc, c'est se faire servir les principaux thèmes de cet Évangile. Si ensuite vous lisez l'Évangile de Luc, vous allez reconnaître des thèmes. Si vous le lisez plusieurs fois, quand vous relisez Jésus à Nazareth dans Luc, vous retrouvez les mêmes airs. Ça va? Donc, ça va être intéressant de porter une attention qui honore, je dirais, l'effort de Luc d'avoir construit cette scène de Jésus à Nazareth.
Bon, donc, Luc fait débuter ou commencer le ministère de Jésus dans une synagogue, dans le cadre d'une liturgie juive.
Oui,
forcément,
tout à fait.
Synagogue, c'est un pléonasme.
Oui, puis c'est le sabbat en plus. Hein?
C'est ça, jour
alors,
du sabbat dans une liturgie juive, dans une synagogue.
C'est d'autant plus intéressant que Luc est un grec, mais probablement un grec qui était déjà, qui gravitait déjà autour de la foi juive avant de devenir chrétien.
Sans doute, oui.
De sorte qu'il connaît la liturgie synagogale. Et on pourrait juste signaler rapidement que on a à la fois donc la présentation d'un Jésus bon pratiquant, pourrait-on dire, et que la lecture pouvait effectivement être faite par n'importe quel participant, non, par n'importe quel homme participant à la liturgie du sabbat. C'était comme ça dans les synagogues. La différence, et là je dirais que c'est une différence chrétienne plutôt que de Jésus lui-même, c'est que dans la liturgie de la synagogue, on lisait un passage de la Torah, le centre, l'équivalent pour nous de l'Évangile.
Attendez, la Torah, c'est-à-dire quelque chose dans les 5 premiers livres de la Bible.
Tout à fait, et qui s'appelait à l'époque la loi de Moïse.
Voilà. Hein?
Donc, ce qui était équivalent pour nous à l'Évangile comme importance de lecture, c'était un passage de la Torah, et on choisissait un passage de prophète
pour éclairer, quoi.
Éclairer. Comme on fait aujourd'hui, on choisit un passage de l'Ancien Testament pour éclairer l'Évangile. Là, la pratique chrétienne a inversé cette lecture. Le cœur, c'est Jésus lui-même, puisqu'il va utiliser le prophète Isaïe pour parler de lui, finalement, en déclarant « Aujourd'hui s'accomplit pour vous cette parole. » C'est parce qu'aujourd'hui, voici, je suis là, moi, et donc, pour vous s'accomplit cette parole. Donc, le centre n'est plus la loi de Moïse ou la Torah, mais la personne de Jésus. Et le prophète, la lecture prophétique, vient éclairer le personnage de Jésus. Donc, c'est intéressant de voir chez Luc cette aisance avec laquelle il utilise une réalité religieuse qu'il connaît, qu'il respecte, qui est la foi juive, et en même temps, il reflète bien comment la foi chrétienne a construit là-dessus. Alors, le choix du texte d'Isaïe est intéressant. Hein?
Ben, on voit qu'il y a beaucoup d'agir, beaucoup le verbe faire, là. Il y a de l'action, hein. Ce n'est pas une, partant de ce texte-là, je pense que Jésus, Luc ne fait pas une description ontologique, si on peut dire, de l'être de Jésus.
Bien qu'il soit grec, pourtant.
Voilà. Mais il le présente dans l'agir, dans l'action.
Ouais.
Hein, dans le mouvement.
On aurait très bien pu, moi, je serais curieuse de savoir si on demandait aux gens, si vous aviez à dire qui est Jésus, je serais curieux de savoir combien répondrait par ce qu'il fait plutôt que par ce qu'il est, genre le Messie, le Fils de Dieu, voyez. Luc n'a pas choisi non plus ce qu'on appelle des textes proprement messianiques. On l'appellera Prince de la Paix, Conseiller fort, bon, les textes de l'Emmanuel, voyez. Non, si on fait juste rappeler, ce sont vraiment des actions. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, un esprit moteur, hein, et non pas, c'est pas pour le sanctifier que l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est pour l'envoyer.
C'est pour l'envoyer.
C'est un moteur, l'Esprit. Parce qu'il m'a consacré par l'onction pas pour être plus saint, pas pour être plus fils de Dieu, mais pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la délivrance aux captifs, annoncer aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés. Voyez, donc, c'est vraiment une mission de proclamation, et c'est des proclamations d'action, de libération, d'action, de salut, on pourrait dire. Alors, c'est intéressant de voir...
En faveur des pauvres.
En faveur des pauvres, des petits, des malpris, tout à fait. Hein. C'est la première, quand on y pense, c'est la première phrase de Jésus adulte. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et ici, on a un bel exemple d'un thème important chez Luc, cette bonne nouvelle aux pauvres. On aura dans quelques dimanches, deux ou trois, les béatitudes dans Luc, et on verra que c'est heureux vous les pauvres, hein, et non pas les pauvres en esprit, heureux vous qui avez faim, et non pas vous qui avez faim et soif de justice. Ce sont les malpris, les concrètement malpris pour qui Luc a du souci. Et pas juste Luc personnellement qui a du souci, mais Luc, pour lui, Jésus révèle un Dieu qui a ce souci prioritaire pour les petites gens, pour les malpris, les gens éprouvés.
C'est ça. Dès le début de son œuvre, hein, il place Jésus dans un agir, dans une action, et son action vers les pauvres, les vrais pauvres, là.
Hein, les malpris en tout genre, on pourrait penser aux gens d'Haïti actuellement. Il y a une sorte d'action qui doit témoigner d'un Dieu qui se préoccupe de ces gens-là. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Pensez au Magnificat de Marie. Il élève les humiliés. Hein, il abaisse les puissants. Il nourrit les affamés. Vous voyez, il y a une constante chez Luc. Pensez aussi je sais plus quel dimanche de l'Avent, nous avions un texte propre à Luc. Des gens questionnent Jean le Baptiste. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Jean le Baptiste répond? Dans Luc uniquement.
C'est ça.
Celui qui a deux tuniques, qui en donne une. Celui qui a à manger, qu'il donne à celui qui a faim.
C'est ça.
Si tu es un soldat, abuse pas de ta force. Bon, vous voyez, ce souci du partage...
Mais ce souci de partage, évidemment, n'est pas une invention de Luc. Hein. Il puise abondamment. Hein. Il a le souci d'enraciner cette réalité-là dans la réalité du Premier Testament.
Là. Tout à fait. Et c'était très présent à la fois dans le Deutéronome, mais beaucoup chez les prophètes. Sauf que là encore, nous, quand on va chercher des textes de prophètes pour parler de Jésus et pour le définir, on va chercher plutôt des textes de Messie, de roi puissant, non pas de conquérant, mais quand même des images de qui il est, hein, un personnage spécial. Ici, le personnage spécial est défini par rapport à un texte, donc de bonnes nouvelles proclamées, de bonnes nouvelles de salut. Et c'est pas, je le signale, une bonne nouvelle pour quand vous serez au ciel. C'est aujourd'hui. C'est bien la dernière ou l'avant-dernière phrase de ce que vous nous avez lu. Hein. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Pensons à la finale du récit de Zachée, qui est propre à Luc. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. On peut penser à la nuit de Noël, qui est propre à Luc, l'ange au berger. Aujourd'hui, un sauveur est né. Vous voyez, c'est le salut, c'est maintenant. Donc, c'est une pratique concrète qui fait que la personne ressent les effets d'un acte d'aide, d'un acte de libération annoncé aux captifs, la délivrance qui sauve. C'est quelque chose qui sauve maintenant, qui fait du bien maintenant. Et c'est pour faire cela, pour proclamer cela, dit Jésus, qu'il a reçu l'Esprit. L'Esprit lui a été donné pour faire ça. Alors, c'est intéressant comme choix de la part de Luc, je dirais.
Bon, sans vouloir récupérer là ce qui se passe actuellement en Haïti, je pense qu'il est permis d'avoir une vision de toute cette solidarité, toute cette prise en charge qui se fait des plus pauvres actuellement en Haïti. Je pense qu'un chrétien peut en faire une lecture. Ça, on récupère pas, mais on fait une lecture et on dit, mais peut-être que par l'intermédiaire de toutes ces personnes, de peu importe leur religion, leur appartenance religieuse, qui sont actuellement, qui s'occupent des plus pauvres, on peut y voir peut-être finalement l'action.
La proclamation d'une même bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle qui s'accomplit, quoi, qui se réalise.
Et je pense que pour certaines des personnes qui sont aidantes, il y a une référence claire pour elles-mêmes à cette idée qu'on doit témoigner, on est appelé à témoigner de cette bonne nouvelle. Alors, c'est sûr que la réaction des gens, vous voyez, dans la synagogue, tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration. Ça rejoint bien ce que nous avions au prologue. Une rumeur se répandait dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Hein, ça fait comme une sorte d'inclusion. La réaction des gens, elle est positive ici. Les gens entendent cette lecture d'Isaïe et réagissent positivement. Je signale en passant qu'on avait aussi dans cette espèce de prologue, là, les versets 14-15 que vous nous avez lus, Claude, Jésus retournant en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Encore là, l'Esprit. Vous voyez, après le baptême, ça doit être il y a 2 semaines, non pas dans la vie de Jésus, mais dans notre calendrier liturgique, Jésus reçoit l'Esprit et Luc continue, rempli d'Esprit Saint, et il est rempli d'Esprit Saint et l'Esprit le pousse au désert. Et là, voici qu'il revient poussé par l'Esprit en Galilée et la première chose qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, ici, on a un autre des thèmes. On parlait de l'ouverture d'opéra, là. Ça, c'est un art qu'on va retrouver, pas seulement dans l'Évangile de Luc, son intérêt pour l'Esprit, mais aussi dans tout le livre des Actes des Apôtres, qui est aussi écrit par Luc. Et là encore, l'Esprit, il est moteur de l'évangélisation, moteur de l'action, moteur d'une communauté qui s'implique finalement dans le monde réel.
Et nous verrons ensemble samedi prochain la suite de ce passage qui a une unité, rappelons-le, et on verra que ces gens qui lui rendaient témoignage et qui étaient dans l'admiration auront une autre attitude.
Tout à fait.
Ouais. Alors, c'est ainsi que je vous invite à nous écouter samedi prochain à la même heure. C'est Claude Julien qui vous parle. J'étais en compagnie de Francine Robert, professeure de l'Institut pastoral des Dominicains, et à la technique, Daniel Fortin.